Il est dit de Muad'Dib qu'il s'en est allé pour un voyage en ce pays où l'on marche sans laisser d'empreinte. En préambule au credo de la Quizarat. Une digue d'eau séparait les plantations du Sietch du sable du désert. Plus loin, il y eut un pont de pierre et le désert sous les pas d'Idaho. Le promontoire du Sietch Taber dominait la nuit derrière lui. Les lunes dessinaient une lisière de givre à son sommet. Près de la rive, un verger avait poussé. Idaho s'arrêta et promena son regard entre les branches fleuries, au-dessus de l'eau silencieuse. Reflet et réalité. Quatre lunes. Le distille était visqueux contre sa peau. Des odeurs de silex mouillé montaient à ses narines à travers les filtres. Le vent semblait porter comme un rire malveillant sur le verger. Il prêta l'oreille au bruit de la nuit. Des souris kangourous se pourchassaient dans l'herbe près de l'eau. Une chouette faucon appelait dans les ombres des falaises. Quelque part au loin, une chute de sable filtrait dans le bled. Idaho se tourna dans cette direction. Il ne discernait aucun mouvement entre les dunes baignées de lune. C'était Tandis qui avait conduit Paul là-bas. Plus tard, il était revenu faire son rapport. Paul était parti seul dans le désert, comme un Fremen. Il était aveugle, vraiment aveugle, avait dit Tandis, comme si cela expliquait tout. Avant, il avait sa vision, comme il nous l'a dit, mais il s'était tu. Il avait haussé les épaules. Les Fremen aveugles avaient toujours été livrés au désert. Muad'Dib était un empereur, mais il était aussi un Fremen. N'avait-il pas fait le vœu que sa garde Fremen élevât ses enfants? Un désert de squelettes, songeait Idaho. Des eaux de rochers blanchies par les lunes saillaient hors du sable, de loin en loin. Puis les dunes commençaient. Je n'aurais jamais dû le laisser seul, même pour une minute, se dit-il. Je savais qu'il avait cela en tête. Il m'a dit que l'avenir n'avait plus besoin de sa présence physique, avait dit Tandis. Lorsqu'il m'a quitté, il s'est retourné et voici les mots qu'il m'a criés. Maintenant, je suis libre. Qu'il soit maudit, songea Idaho. Les Fremen s'étaient refusés à envoyer des secours, à dépêcher des ornis. C'était contre leur coutume ancestrale. Un ver viendra pour Muad'Dib, avait-il dit. Et ils avaient entonné le chant réservé à ceux qui étaient promis au désert, ceux dont l'eau allait à Shai-Hulud. Mère des sables, père du temps, commencement de la vie, laisse-lui le passage. Idaho s'assit sur un rocher plat et laissa courir son regard sur le désert. La nuit tissait sur le sable des trames trompeuses. Il était impossible de savoir dans quelle direction Paul avait pu aller. Maintenant, je suis libre. Paul avait dit ces mots et Idaho, surpris par le son de sa propre voix, venait de les répéter. Pour un temps, il laissa errer son esprit, se souvenant du jour où il avait conduit l'enfant Paul Atreides au marché marin sur Caladan, l'éclat du soleil sur l'eau, les richesses de la mer. Il se souvenait de Gurney Halleck, jouant pour eux de sa balisette. Des rires, des plaisirs. Des rythmes oubliés revinrent en lui et lancèrent son esprit dans les couloirs illuminés des délices passés. Gurney Halleck lui en voudrait pour cette tragédie. Les échos de balisette s'éteignirent. Les mots de Paul lui revinrent. Il est dans cet univers des problèmes qui n'ont pas de réponse. Il se demanda de quelle façon Paul mourrait dans le désert. Rapidement, tué par un ver géant, lentement sous le soleil. Certains des Fremen du Sietch avaient déclaré que Muad'Dib ne mourrait jamais, qu'il entrait simplement dans le monde roux où coexistaient tous les avenirs possibles, qu'il serait présent dans le Alam al-Mithal, errant de toutes parts bien après que sa chair fut morte. Il va mourir et je suis impuissant, songea Idaho. Il se dit alors qu'il pouvait y avoir une certaine élégance raffinée à mourir sans laisser de traces, avec une planète entière comme tombe. Mentat, résous-toi, pensa-t-il. Des mots affluèrent à sa mémoire. Les paroles rituelles du lieutenant Fedaikin assignant un homme à la garde des enfants. Ce sera le devoir solennel de l'officier commandant. Le langage pesant et pompeux du gouvernement le faisait rager. Il avait séduit les Fremen, il avait séduit tous les hommes. Et tandis qu'un homme, immense, mourait là-bas, le langage continuait de peser, sans cesse. Qu'était-il advenu, se demanda-t-il, des significations pures et claires qui balayaient l'absurde? Quelque part, en quelque lieu perdu que l'Empire avait créé, elles avaient été étouffées, emmurées afin que jamais on ne les redécouvrît par hasard. Son esprit assoiffé cherchait des solutions selon la technique Mentat. Des esquisses de connaissances brillaient là-bas, comme les cheveux de la Lorelai attirant le marin vers des cavernes d'émeraude. Brutalement, il s'éveilla de son oubli catatonique. Ainsi, songea-t-il, plutôt que d'affronter l'échec, je préfère disparaître en moi-même. Cet instant demeura en sa mémoire. En y réfléchissant, il eut la sensation que sa vie avait été étirée aux dimensions de l'existence de l'univers. La chair véritable demeurait condensée et achevée dans la caverne d'émeraude de la conscience, mais la vie infinie avait partagé son être. Il se leva. Le désert l'avait lavé. Le sable commençait à murmurer dans le vent sur les feuilles du verger. La nuit portait maintenant une senteur abrasive de poussière. Un souffle soudain de vent fit flotter sa longue robe. Loin dans le bled, se dit-il, une mer tempête devait se déchaîner, pareil à un immense ver de sable qui rongeait la chair sur les eaux. Il ne fera qu'un avec le désert, pensa-t-il. Par le désert, il sera accompli. C'était là une pensée zen-sunni qui se déversait dans son esprit comme une eau fraîche. Paul marcherait longtemps, il le savait. Un Atréide ne pouvait se livrer complètement au destin, même avec la pleine certitude de l'inévitable. Un reflet de prescience effleura Idaho en cet instant, et il sut que les hommes de l'avenir évoqueraient Paul en termes marins. Sa vie serait engloutie par le sable, mais l'eau le suivrait toujours. Sa chair avait sombré, dirait-il, mais il nageait toujours. Quelqu'un toussota dans l'ombre. Idaho se retourna brusquement et découvrit la silhouette de Stilgar, immobile sur le pont, au-dessus du Cana.
On ne le trouvera pas, dit-il. Mais pourtant, tous les hommes l'auront trouvé.
Le désert le prend, dit Idaho, et il en fait un dieu. Pourtant, il était un étranger ici. Il a apporté sur ce monde une drogue étrangère, l'eau.
Le désert impose ses propres rythmes, dit Stilgar. Nous l'avons accueilli, nous l'avons appelé Mouad Dib, notre Mahdi. Nous lui avons donné son nom secret, Ouzoul, la base du pilier.
Pourtant, il n'était pas né Fremen.
Cela ne change rien au fait que nous l'avons considéré comme tel, finalement.
Stilgar posa la main sur l'épaule d'Idaho.
Tous les hommes sont des étrangers, mon vieil ami.
Tu es profond, Stil, n'est-ce pas?
Assez profond. Je puis voir la confusion que nos migrations répandent dans l'univers. Mouad Dib nous a donné quelque chose qui ne connaissait pas la confusion. Pour cela au moins, les hommes n'oublieront pas son djihad.
Il ne succombera pas au désert, dit Idaho. Il est aveugle, mais il ne succombera pas. C'est un homme de principe, un homme d'honneur. Il a été éduqué en Atréide.
Et son eau sera déversée sur le sable, dit Stilgar. Viens,
Alia te demande.
Elle était avec toi au Siech Makab?
Oui. Elle a été d'un grand secours avec les naïbes les plus faibles. Maintenant, ils obéissent, comme moi.
À quels ordres?
Elle a ordonné l'exécution des traîtres.
Oh!
Idaho eut comme un vertige en levant les yeux vers le promontoire.
Quel traître?
Le Guildien, Korba, la révérende mère Morayam, quelques autres.
Vous avez tué une révérende mère?
Je l'ai fait moi-même. Mouad Dib avait laissé des instructions pour qu'on l'épargne. Il haussa les épaules. Mais je lui ai désobéi. Alia savait que j'agirais ainsi.
Une fois encore, le regard d'Idaho se porta sur le désert. Il sentait maintenant que celui qu'il était devenu était capable de discerner le schéma créé par Paul. Stratégie du jugement, déclaraient les Atréides dans leur manuel d'éducation. Les gens sont subordonnés au gouvernement, mais les gouvernés influencent les gouvernants. Les gouverner, songea-t-il, avaient-ils seulement la plus faible idée de ce qu'ils avaient aidé à construire ici?
Alia, commença Stilgar.
Il s'éclaircit la gorge avant d'achever.
Alia a besoin du réconfort de ta présence.
Et elle est le gouvernement, murmura Idaho.
Une régente.
Partout, la fortune passe, ainsi que le disait mon père.
Nous avons fait un marché avec l'avenir, dit Stilgar. Viens-tu? Nous avons besoin de toi là-bas.
Il eut à nouveau l'air embarrassé.
Elle est bouleversée. Un instant, elle pleure sa mère et la maudit l'instant suivant.
Je viens, promit Idaho.
Il guetta les pas de Stilgar qui repartait. Il demeura face au vent crépitant de sable. Il projeta sa perception mentat au long des flux changeants de l'avenir. Les possibles qu'il entrevit l'étourdirent. Paul avait déclenché un tourbillon sur le chemin duquel rien ne resterait en place. Le Bennett Laylax et la Guilde avaient été trop loin. Ils avaient perdu et étaient discrédités. La Cuisarat avait été ébranlée par la trahison de Corba et de ses conjurés. Et le dernier acte de Paul, son acceptation des coutumes, lui avait assuré définitivement la loyauté des Fremen, à lui et à la maison des Atreides. Pour l'éternité, il était l'un d'eux.
« Paul est parti !»
Alia était arrivée en silence et se dressait maintenant à son côté.
« Il a agi comme un fou, Duncan. Ne dites pas cela. L'univers tout entier le dira.
Pourquoi, pour l'amour de Dieu ?»«
Pour l'amour de mon frère et non pas celui de Dieu. »
Idaho sentit sa perception se dilater devant la pénétration Zensuni. Il pouvait sentir qu'il n'y avait plus de vision en elle, plus depuis la mort de Shiny.
« Étrange amour, » dit-il.
« Amour ? Duncan, il lui suffisait de s'écarter du chemin. Qu'importait donc l'effondrement de l'univers derrière lui ? Il serait sauf et Shiny serait avec lui. »
« Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?»«
Pour l'amour de Dieu, » murmura-t-elle.
Et plus fort, elle ajouta, « Toute la vie de Paul a été un combat pour échapper à son djihad et à sa déification. »
Au moins, il s'en est libéré. Il a choisi cela.
Ah oui, l'oracle. Idaho secoua la tête. Même la mort de Shiny. La lune est tombée.
Alors n'était-il pas fou, Duncan?
Il sentit sa gorge se serrer douloureusement.
Quel fou!
Dit Alia dans un sanglot.
Il vivra éternellement, tandis que nous mourrons.
Alia.
Ce n'est que le chagrin, rien que le chagrin. Sais-tu ce que je dois faire pour lui? Épargner la vie de la princesse Irulan. Celle-là, si tu entendais son chagrin. Elle gémit, elle donne son eau aux morts. Elle jure qu'elle l'aimait et qu'il ne le savait pas. Elle renie les sœurs et dit qu'elle consacrera sa vie à éduquer les enfants de Paul.
Et vous la croyez?
Elle déborde de sincérité.
Grommela Idaho.
L'ultime schéma se déployait devant sa perception comme un dessin sur un tissu. La défection de la princesse Irulan était le dernier point qui dépossédait le Bene Gesserit de tout levier contre les héritiers atréides. Alia se mit à pleurer et posa sa tête contre sa poitrine.
« Duncan ? Oh, Duncan, il est parti !»
Il embrassa ses cheveux.
« Je t'en prie, » murmura-t-il.
Leurs deux chagrins se fondaient, se rejoignaient comme deux ruisseaux qui allaient vers un même étang.
« Duncan, j'ai besoin de toi. Aime-moi. »«
Je t'aime, »
dit-il dans un souffle. Elle leva la tête et regarda son visage, pâle sous les lunes froides.
« Je le sais, Duncan. L'amour connaît l'amour. »
Il eut un frisson, une impression d'abandon de soi-même. Il était venu en quête d'une chose et en avait trouvé une autre. C'était comme si, pénétrant dans une pièce pleine de monde, il découvrait trop tard qu'il ne connaissait personne. Alia s'écarta de lui et lui prit la main.
« Viendras-tu avec moi, Duncan ?»«
Où que tu ailles, » dit-il.
Elle lui fit franchir à nouveau le cana, et ensemble, ils rentrèrent dans les ténèbres qui entouraient le massif et le lieu de sauvegarde.